prédiction, elle n'aura jamais lieu.
Oui, mais les gens ne le font pas.
La proposition d'Attal d'interdire les réseaux sociaux à 15 ans, ça ne marchera jamais. C'est d'ailleurs même anti-européen, c'est contre le droit européen.
Et alors l'Europe. Mais alors, toi, c'est vraiment l'Europe comme moment d'impuissance.
Moi, je ne supporte pas les responsables politiques qui font des propositions alors qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais l'appliquer. C'est ça qui fait aussi la cocotte minute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de l'impuissance, en fait.
Merci, Bruno. Régulièrement, le commissaire du peuple vienne taper chez les gens.
Non, mais Jean-Loup Bonamy a de légères tendances autoritaires, elle ne s'en cache pas.
Alors là, c'est
Jean-Loup Bonamy assume une certaine
autoritaire,
forme de...
mais l'autorité, c'est pas l'État qui va. Ils nous ont dit de mettre l'école roulée. Et maintenant, ils vont se substituer aux parents. Enfin, il y a un moment, non. Les gens doivent reprendre leurs responsabilités.
On peut prendre les enfants des parents et les mettre dans des camps. Mais là, ils seraient gérés par Jean-Loup Bonamy.
Oh, le paradis.
Exactement. Les camps d'éducation.
Oh, le paradis. Oh, j'adore.
Instructeur Bonamy.
Oh, j'adore.
Bienvenue au camp Bonamy. Avec un grand nom comme ça.
J'aurais un camp de rééducation pour journalistes.
Dans les parlants, il leur passera du compte toute la journée.
Ouais, c'est ça. Et puis avec l'éducation à la console de jeu, et puis le matin, le salut au drapeau.
Oh, que le
drapeau rouge. Hein.
Je prendrai Joël comme conseillère.
Dans un instant, on en parlera avec Linda.
Ah, bah voilà, bah parfait, bravo.
Linda est enseignante dans le Nord. On aura Christelle avec nous, l'amie Christelle de Drancy, qui ont toutes les deux des opinions à propos des enfants, des smartphones. Est-ce que l'interdiction de vendre des smartphones aux moins de 15 ans, franchement, est-ce que c'est la bonne solution? Parce que ce que l'on veut, c'est, ce que souhaitent ces députés, c'est limiter l'accès aux réseaux sociaux, à la multitude d'informations et surtout d'images violentes et perverses. On en discute avec vous au 32-16, il est 10h15, vous restez avec les grandes gueules sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h, midi, les grandes gueules.
RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. RMC.
Ils sont sportifs.
Ils se voient le week-end.
Ils forment une grosse équipe.
Ils ne pratiquent pas la langue de bois.
Ils aiment le rugby,
le foot,
le judo,
l'escrime,
le cyclisme,
le handball,
la voile,
le karaté,
le skateboard,
la pétanque,
le ski,
le biathlon,
le triathlon,
le
décathlon.
Et surtout, le sport.
Ce sont les grandes gueules du sport, bien sûr.
Tous les samedis et dimanches, 9h midi sur RMC.
Sur RMC, la nuit,
RMC,
c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story avec la camarade Joël Dagosséry, puisque maintenant nous sommes sous l'autorité du commissaire du peuple, Bonamy.
Une autorité bienveillante.
On n'en doute pas. À quel moment pourrait-il y avoir une once de méchanceté chez toi? Donc, avec la camarade Joël Dagosséry, le camarade Poncé. Et puis, Linda, Christelle et Caroline qui veulent prendre la parole au 32-16. On va commencer avec Linda qui est enseignante en primaire. Bonjour Linda.
Bonjour à vous.
Alors Linda, ce qui est intéressant, c'est que vous avez 5 enfants.
Oui, j'ai 5 enfants.
Est-ce que l'autorité... Alors, comment vous faites avec les portables?
Avec les portables, on a décidé de ne pas leur mettre de smartphone entre les mains avant l'entrée au lycée, donc 15 ans.
D'accord.
Avant, ils ont un téléphone portable à clapper. Hein. C'est vrai que comme on travaille, comme on a des organisations et des vies très occupées, c'est bien de pouvoir être assuré, prévenir, etc. Et à ce titre d'ailleurs, je me permets d'être à l'antenne pour dire qu'il y a une association qui s'appelle le Pacte Smartphone. Donc le pacte smartphone, sur Internet, on le trouve très facilement. Et c'est une communauté de parents qui a décidé de militer pour retarder l'achat du premier smartphone.
D'accord.
Et c'est une communauté qui est hyper bienveillante, qui n'a pas de discours moralisateur en pointant des parents du doigt, en ceci, cela, en essayant au contraire de convaincre, de trouver des solutions avec les parents. Parce que c'est là où je voulais en venir, moi, dans mon appel. C'est-à-dire que le smartphone, c'est qu'un seul petit truc. Parmi tant d'autres, en fait, c'est le sommet de l'iceberg. Quelle est la place des enfants en France? Si les parents ont recours au smartphone ou aux écrans quand ils sont exclus du collège, c'est parce qu'il n'y a pas un adulte pour être à la maison avec eux. Mmh. Et que je ne dis pas du tout, mon discours n'est pas de dire qu'il faut remettre les femmes à la maison, c'est pas ça. Par contre, que les parents aient des droits, le droit d'avoir du temps supplémentaire, le droit, etc., pour élever leurs enfants. En fait, quelle est la place des enfants dans notre société et comment on veut les faire grandir? Je pense sincèrement que c'est une question qui est beaucoup beaucoup plus global que ça, en fait.
Au alors, moment d'ailleurs, Joël voulait réagir de la baisse de la natalité.
Alors, je suis d'accord sur la place de l'enfant effectivement dans la société et on doit y réfléchir. Par contre, le fait, la présence du parent obligatoire pour que l'enfant n'ait pas accès à son smartphone, je suis moins d'accord.
Non, j'entends Joël, je suis complètement d'accord avec vous.
Pendant la pub, je racontais justement en plateau que nous on avait une console, je me rappelle la première console, c'est la Super Nintendo, et qu'elle n'était pas branchée en permanence, que mes parents la cachaient, je ne sais où. D'ailleurs, j'ai jamais su encore aujourd'hui où elle était cachée, ah, mais qu'on devait
On devait leur demander
avant de jouer et ils venaient et ils la rebranchaient. Aujourd'hui, d'accord, vous avez dans des familles où la console est branchée. Elle est branchée comme la télé, comme le réfrigérateur, comme voilà. Et si je n'étais pas là, par exemple, que ma fille était punie à la maison et que je n'étais pas là et que j'estimais qu'elle n'avait pas, je prendrais le téléphone tout simplement. Bon, il n'y a pas de console à la maison, mais je prendrais le téléphone et la tablette qui est à la maison et puis voilà. Et elle n'y aurait pas accès. Enfin, je veux dire, il y a des moyens quand même aujourd'hui de, je dis pas qu'ils respectent tout, attention, je suis pas naïve et tout, mais on peut quand même essayer d'imposer une certaine autorité.
Mais où est-ce qu'on trouve encore des téléphones à clapet?
Partout, franchement, par contre, je suis entièrement d'accord avec vous, Joël. Moi ici, pareil. Et puis même si on met un smartphone, il y a des trucs de contrôle parentaux qui permettent. Enfin, en gros, si on a la volonté, faut être clair, je suis d'accord avec vous.
Donc il faut plutôt informer les parents. Informer les parents qu'il y a des moyens de contrôler le smartphone de leurs enfants,
mais
plutôt
en même
que de dire cet objet, c'est le diable, interdisons-le.
C'est le shit.
Et puis par contre, je peux témoigner parmi mes deux aînés. Donc ils ont eu un smartphone à partir de l'âge de 15 ans et j'ai mis Family Link dessus pour savoir combien de temps ils passaient pour interdire les accès au porno, parce que j'entendais tout à l'heure sur votre antenne dire que le problème c'était les réseaux sociaux. Je suis pas d'accord. L'accès à Internet et l'information mondiale dans son ensemble pour un gamin qui est pas majeur, c'est extrêmement
donc
dangereux.
Donc vous leur avez mis des filtres et ça marche.
Oui, ça fonctionne très bien.
D'accord.
Et je leur ai expliqué en même temps. Je leur ai expliqué pourquoi le porno, pourquoi ces choses-là c'est dangereux à leur âge, quelles conséquences. Je leur ai fait peur en fait. Quelles conséquences, enfin, je les ai informés. Alors, quelles conséquences ça pouvait avoir sur leur vie d'adulte, etc. Mon premier, ça s'est passé tout seul, c'est-à-dire que j'ai pas eu beaucoup de temps à lui accorder. J'ai pas dû passer beaucoup de temps avec lui pour que ça se passe bien. Et puis en fait, ma deuxième, oui, il a fallu que je discute et que je remette en question et alors, que machin.
Linda,
ça a demandé du temps, quoi.
D'accord, mais je voudrais que vous restiez avec nous pour écouter les deux autres témoignages qui vont suivre. On va commencer avec Christelle. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Bienvenue Christelle, cake designer, et encore merci de nous suivre et de suivre les GG et de votre témoignage dans le livre, hein, les grandes gueules, 20 ans de succès. Ma chère Christelle.
C'est mon anniversaire lundi, Christelle.
Ah, mais quel gratteur.
Il t'a coincé, Christelle. Christelle, alors, revenons au téléphone portable. Est-ce que, qu'est-ce qu'on fait? On interdit la vente ou pas?
Oui, mais c'est du bon sens, mais je suis très en colère depuis quelques jours par rapport à ce sujet, par rapport à tout ce que je vois sur les réseaux, à la télé, avec les influenceurs invités à l'Assemblée nationale parce qu'ils seraient fautifs. Alors oui, ils ont une part de responsabilité, mais je suis désolée, les premiers responsables, c'est les parents. Je comprends pas qu'on puisse donner un smartphone à un enfant de moins de 15 ans. Je comprends pas. Moi, mon fils, il a 22 ans. Il a eu un téléphone très, très, très tôt. Il avait 7 ans. Mais c'était un téléphone à clapet, un 3310. Ouais. Parce que moi, je travaillais hyper loin. Il n'y avait pas de téléphone fixe. C'était pour le réveiller, pour qu'il se prépare, qu'il aille à l'école. Et quand il rentrait, qu'il m'appelait pour me dire « je suis rentré ». C'est tout. Son premier smartphone, il l'a eu à 15 ou 16 ans, je crois. Et il avait droit accès qu'à Facebook et c'est moi qui contrôlais. Moi, je vois dans mon entourage, dans mon immeuble, j'ai des petits qui ont 8 ans, 9 ans. Ouais. Ils ont une chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat. À quel moment? Je comprends pas que les parents cèdent à la pression de leurs enfants. J'arrive pas à comprendre. Il y a rien qui est surveillé. Les enfants, ils sont toute la nuit sur le téléphone. Ils sortent jouer en bas. Ça veut dire que c'est vraiment en bas. C'est même pas à 500, 800. C'est en bas. Il y a le téléphone, ça fait des TikTok toute l'après-midi. Il n'y a rien qui est contrôlé. Moi, j'ai une amie, sa fille a 3 ans, elle lui a acheté un iPhone 10. C'est le téléphone de ma fille pour qu'elle regarde les dessins animés sur YouTube, sur Disney Channel. Mais on va où? Je comprends pas. Moi, les premiers responsables, c'est les parents. Je suis désolée, on n'a pas à avoir. Oui, mais c'est pour quand il va le trajet.
D'accord, Christelle, tu es sur cette autorité parentale exactement comme Linda qui était avec nous. Alors, restez toutes les deux, Christelle et Linda, parce que Caroline, c'est un témoignage un peu différent qu'on va voir. Bonjour, Caroline.
Bonjour.
Vous, vous avez acheté un smartphone, Caroline de Haute-Vienne, à votre fils pour ses 10 ans.
Exactement. En fait, je cherchais à lui faire plaisir pour ses 10 ans. Il n'est absolument pas au courant qu'il va avoir un téléphone. J'ai choisi de lui acheter un téléphone parce qu'il a un an d'avance. Là, il va rentrer au collège en septembre. Et nous, on vit à la campagne. Donc, du coup, je sais que ça va être indispensable, d'autant qu'on est séparés avec son papa. Donc, je pense que ça va être logistiquement beaucoup plus pratique. En revanche, moi, j'ai acheté son téléphone en avance pour pouvoir totalement le contrôler, totalement le brider. Je ne lui ai installé aucun réseau social. C'est absolument interdit. Chez nous, on regarde très peu la télé. Il n'y a pas de Switch, il n'y a pas de Nintendo. Tous les écrans, ils sont extrêmement contrôlés. Donc là, je le fais avec une grande anxiété parce que il va rentrer au collège et que je sais que ça va être important et indispensable, que on n'aura pas le choix pour qu'il puisse nous contacter en cas de problème.
Mais
ou
vous êtes sûr qu'il va pouvoir se passer d'aller jeter un coup d'œil sur...
C'est pour ça que je vais faire le test là sur cet été. En fait, l'idée, c'est de pouvoir contrôler sur cet été, voir ce qu'il fait, s'il m'écoute, s'il respecte les limites.
Alors, Caroline, attendez. Oui. Linda, qu'est-ce que vous en pensez, Caroline, alors qu'il achète le téléphone pour son gamin de 10 ans, parce qu'il travaille bien?
Franchement, je pense sincèrement que oui, mais pas sans un adulte. Quand l'adulte n'est pas là, c'est un téléphone à clapet. Vous pouvez être contacté. Et par contre, quand vous êtes là, oui, parce qu'il y aura des tas de moyens de contourner. En fait, les parents aujourd'hui, ils ont la gueule de bois, parce qu'ils pensaient contrôler leurs enfants, et ils se rendent compte, je pars citer adolescence, ils se rendent compte qu'en fait, des gamins, c'est beaucoup plus malin que nous, c'est beaucoup plus en avance sur tout ce qu'ils peuvent pour contourner.
Il y a des choses qui nous échappent, ça.
Donc, c'est non sans surveillance, en fait.
C'est pour ça que moi je vais vérifier là pendant les deux mois de l'été, voir comment il s'en sert et ce qu'il fait, et auquel cas je réajusterai mon raisonnement, parce que comme ça me permet d'avoir deux mois pour vérifier, et auquel cas bien évidemment, même après dans l'année, si je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas respectées, ça sera niette.
Est-ce qu'autour de lui il y a d'autres gamins de 10 ans qui ont des téléphones portables? Est-ce qu'ils sont bridés ou pas?
Pas du tout, au contraire, téléphone portable, c'est une nounou, c'est une véritable nounou pour les parents.
Caroline, ça veut dire que votre fils, il va pouvoir aller jeter un petit coup d'œil, les copains vont lui dire regarde.
Pour l'instant, non. Après, au collège, je ne sais pas comment ça se passera, mais pour l'instant, ils n'ont pas le droit d'avoir les téléphones, il est en primaire en CM2, hein. Donc il n'y a pas de téléphone qui rentre à l'école, en tout cas. En dehors de l'école, il est avec moi tout le temps, donc du coup, je contrôle tout. Au collège, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Donc j'ai la trouille, hein. Je vous avoue que moi, je suis très anxieuse de savoir comment ça va se passer et comment il va gérer ça. Après, je me dis qu'avec mon mari, on est assez consciencieux, on lui explique énormément de choses. Il n'est pas stupide, donc il va comprendre. Maintenant, on va observer et contrôler, regarder et être à l'écoute. Et surtout être dans la communication pour tout lui expliquer, quoi.
D'accord, Caroline.
Je sais pas, moi j'ai donné un smartphone à ma fille quand elle est entrée au collège. Donc elle avait 11 ans.
11 ans,
ça s'est bien passé. Alors c'était pas le dernier smartphone.
Elle avait accès à Internet et tout.
Elle avait accès à Internet, mais c'était pas un modèle très récent, donc elle pouvait pas non plus. Mais voilà, et ça s'est très bien passé. Il y avait des règles. Moi je pense que on diabolise le téléphone. Ouais. Je pense qu'on est à côté de la plaque. Le problème c'est les contenus de ce qu'elle va effectivement, ce qu'elle pouvait trouver. Mais sur
dans
son
tous
téléphone.
Les cas, que soit Linda, ça, Christelle ou Caroline,
il y a du contrôle parental.
Elles mettent des filtres et je remercie toutes les trois d'avoir été avec nous, Joël.
J'ai quand même été étonnée de voir, donc pour la commission là, qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, j'ai quand même été étonnée d'entendre partout, enfin pas partout, mais sur beaucoup de plateaux, que les influenceurs interviewés, personne ne les connaissait. Je ne connaissais pas, je découvre avec cette commission Alexis Chance, Nasdas, Adé Laurent,
parce
machin.
Que t'es vieille.
Parce que je suis vieille, c'est parce que, comme je te dis, j'ai intégré le fait qu'elle ait accès à certains contenus dans mon éducation. Et donc, je m'intéresse, au-delà du contrôle.
Toi, tu les connais, ces influenceurs?
Oui, je les connaissais depuis
et
très longtemps.
Et les députés ne les connaissent pas.
Et je m'intéresse à peu près à ce que ma fille va s'intéresser. Et il m'arrive d'aller voir qu'est-ce que fait Squeezie, qu'est-ce qu'il raconte, machin, etc. Parce que je dois intégrer cette donnée. Alors, ça me demande plus de travail, effectivement, parce que des fois, t'as pas envie de regarder ça.
Par exemple, j'avais regardé TikTok, parce qu'elle était beaucoup sur TikTok, pour savoir au début à quoi ça ressemblait.
Voilà, parce que tu peux pas tout contrôler. C'est bien, c'est vrai, effectivement, mais ils vont contourner. Moi, j'ai contourné plein de règles de mes parents, Et je suis pas non plus tombée dans la délinquance.
C'est surprenant dans le discours qu'on entend, là, tu vois, de toutes ces mères. Ça t'explique, mon machin. Mais j'ai l'impression que, alors, je sais pas quelle mère, quel enfant elles étaient, mais moi, gamin, j'ai fait tout ce qu'on devait pas faire, en fait, parce que mes parents, ils t'interdisent des trucs et tout.
Oui, mais parce que t'avais les interdits.
Oui,
mais si t'as pas d'interdit, tu contournes rien et c'est open bar. C'est normal qu'un enfant veuille contourner les interdits, mais c'est normal qu'il y ait des interdits aussi.
Tu les entendais, tu disais oui, mais moi, je vais voir ce qu'il fait.
Ce qui est intéressant, à travers les trois témoignages ou ce que dit Joël, contrairement à ce que pense le commissaire du peuple Bonamy, c'est que on a trois parents qui ont pris, alors ce sont des parents modèles, mais leur responsabilité. Oui. Tu entends ? C'est-à-dire qu'ils ont dit, on a choisi effectivement ou de ne pas acheter de portable, alors, ou de ne pas en avoir, oui, ou si on l'a, on a mis des alors filtres et on fait attention. Donc ils ont pris leur responsabilité.
J'aime bien parce que t'as un biais de sélection. Évidemment que ceux qui t'appellent, c'est ceux qui ont pris leur responsabilité, et que ceux qui n'ont pas pris leur responsabilité, déjà peut-être ils n'écoutent pas les GG, et ensuite ils ne vont pas nous appeler pour nous dire, ah bah oui, on a
donc
fait
on
n'importe quoi.
On va tout le monde parce qu'il y a des gens irresponsables.
Et surtout, il y a une chose que vous oubliez, c'est que vous vous centrez beaucoup sur les contenus à problème, du type violent ou sexuel, mais indépendamment du contenu, ça pose quand même de vrais addiction, problèmes cognitifs, neurologiques sur la concentration. Okay. Même si tu regardes des vidéos dans lesquelles il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de contenu extrémiste, si tu zappes, si tu scrolles et tu regardes toute la journée des vidéos de 30 bien secondes, ça détruit la capacité de concentration.
C'est une addiction. Non,
mais oui, mais c'est ça le vrai problème.
Non, dans
ce
cas-là, il faut dire mes parents. Moi, quand j'étais gamin, j'avais pas le droit au Walkman. Ah, fallait pas que j'ai de Walkman, je vais devenir sourd.
Ah ouais.
Un mec,
ouais,
j'ai commencé à 12 ans les Walkman, aujourd'hui je suis toujours pas sourd et pourtant c'est musique à fond toute la journée. Ouais, limite des fois.
Ouais, en fait, plus, moi, la musique c'est
moi,
du métal. Hein.
J'écoute pas Brave, non, j'écoute pas que ça. Mais toi, Joël, ce qu'elle dit, elle a raison en fait. En fait, en 2025, le téléphone fait partie de ta vie et quoi que tu fasses, ça sera comme ça.
Mais oui.
Et il y a plein de choses comme ça. Moi, quand j'étais
gamin,
vivre
avec, moi,
mes parents, ils
croyaient
qu'ils m'avaient interdit. Et puis nous, Olivier doit s'en rappeler. Enfin, c'était genre, vous êtes devenir sourd, écoutez vos Walkman, arrêtez. Sans déconner, c'est quoi
le truc? Deux choses qui devaient rendre sourd.
11h25, les
bravo
smartphones.
Bravo pour ce moment d'une grande finesse, Olivier.
Les smartphones.
Certains l'ont très classe.
Les smartphones. Moi, je ne l'ai pas entendu. Donc,
t'étais déjà sourd.
Donc, ils avaient raison de nous alerter. Sur les Walkman.
Les parents.
Sur les Walkman. Les smartphones avant 15 ans, utopique ou pas? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est une mesure qui pourra se mettre en place? Utopique, bah oui, 81%. Donc la proposition transpartisane a été balayée. En revanche, ce qui est là est bien là. C'est du sonnant et du trébuchant. Il est 10h36. On dit aussi 11h25. Et vous avez 5 minutes devant vous pour gagner 13 000 euros, jusqu'à 13 000 euros, en envoyant chance par SMS au 732-16, puisque nous sommes le vendredi 13. On propose de jouer. Tout à l'heure, on a un tableau avec des tickets de grattage. Il y a de l'argent et jusqu'à 13 000 euros. C'est à 11h15 qu'on aura un gagnant avec nous. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Envoyez chance par SMS au 732-16. Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, le short au travail. On a des éboueurs qui se mettent en grève parce qu'ils demandent à pouvoir travailler en short. C'est la France, messieurs, dames. Allez, à tout de suite au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC.
Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2,
3, 4.
Les GG, les grandes gueules, avec aujourd'hui Joël Dagosséry, avec Jean-Loup Bonamy, avec Bruno Poncé, les grandes gueules qui sont avec vous au 32-16. On discute, on débat, on regarde comment va notre pays, on regarde les sujets de société. Là, il y en a un, notamment avec cette vague de chaleur qui est en train de monter dans le pays, concernant l'habillement que l'on peut avoir sur le lieu de travail. Et on a, du côté de l'agglomération de Niort, les éboueurs qui sont mis en grève parce qu'ils veulent pouvoir travailler en short.
Dans les t-shirts, dans les maillots.
Eric Charnel. Là, c'est l'équipe. C'est-à-dire que là, tu vis d'une rente avec ça. Alors, est-ce qu'il faut laisser les gens venir travailler comme ils veulent, et là, pour les éboueurs, travailler en short?
Alors, que dit la loi?
aucune loi n'interdit le port du short ou du bermuda sur le lieu de travail. D'un point de vue juridique, chacun est libre de venir habiller comme il le souhaite au travail, même en tongs, n'en déplaise à Alain Marchal qui hier expliquait qu'il avait une aversion
en commissaire du peuple
contre les tongs au travail. Mais il y a un mais dans la loi. Parce qu'en mai 2003, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la liberté de se vêtir au travail n'était pas une liberté fondamentale absolue. Concrètement, votre employeur est en droit de poser des limites vestimentaires tant que ces limites sont justifiées par l'intérêt de l'entreprise, par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. C'est pour ça que la communauté d'agglomération du Niortais refuse d'accorder le droit de porter un short à ses éboueurs parce que pour des raisons de sécurité, la communauté d'agglomération estime que le port d'équipements de protection individuelle et d'un pantalon est obligatoire pour protéger ses propres agents. Est-ce que vous comprenez cet argument ? D'autant plus que la communauté explique que le plan canicule n'étant pas déclenché, il n'y a pas de raison de changer les règles.
Alors, on ne peut pas s'habiller n'importe comment au travail. Là, en plus, les raisons de sécurité sont invoquées. Mais enfin, pour autant, est-ce qu'il faut se mettre en grève ? Bruno Poncet.
Bah, en fait, là, dans le cas de Nuance, c'est qu'en fait, avant, ils avaient le droit. Après, on dit qu'ils n'ont plus le droit. Ouais. Sauf que les mecs, ils t'expliquent bien qu'en fait, ça, vu en plus comment les poubelles sont faites aujourd'hui, enfin, une explication technique qui est très rationnelle, ils disent que quand les poubelles sont faites, il y a rarement de projection au niveau des jambes et que les mecs ont... peuvent de travailler en short. En fait, moi, ce que je capte pas, c'est à quel moment le mec qui pond la loi, il a déjà été derrière une poubelle, en train de la mettre de la soulever et de la mettre sur le camion en benne, quand il fait 45-50 degrés, tu vois, en fait.
J'ai pas 45-50 degrés.
Non, mais en fait, malheureusement, aujourd'hui, quand tu travailles en plein soleil, moi, cette semaine, j'étais à Perpignan, enfin, j'étais au boulot. Il faisait 35-37 en plein soleil. Les mecs, je peux te garantir, ils avaient les tenues.
Ouais,
obligatoirement, les épis et tout. Mais ils avaient quand même des t-shirts. Mais ils étaient dans des états. Ils étaient cuits, quoi, en fait. Et après, des fois, ils rentraient dans le bureau qui était un peu climatisé. Mais en fait, ils étaient cuits. Il était 14h. Ils étaient cuits. Enfin, moi, je pense
comme
réellement.
Toi, tu dis, laissons les éboueurs mettre un short.
Mais parce que si, à un moment donné, t'as pas un problème de sécurité, dans genre, tu sais, ton short est trop large, tu te fais happer par la machine, je ne sais quoi. Mais
puis
en
tu
fait.
Tu peux te faire couper aussi par un truc en métal.
Faut arrêter, c'est des éboueurs. Hein, les mecs, ils travaillent pas avec une tondeuse. Enfin, moi, je comprends
d'accord,
pas,
mais ils sont sur un camion.
Mais en fait, si les mecs te disent qu'ils peuvent le faire, les mecs, ils vont pas jouer leur vie pour un short. Ils vont pas te dire, je vais mettre un short.
Oui, mais c'est à l'employeur de fixer la règle.
Oui, bah, ok, mais dans ce cas-là, quand t'écris le règlement intérieur, bah, je pense que tu dois le contester. Et que les mecs se mettent en grève, c'est qu'il y a une bonne raison. Tu perds pas du pognon pour une.
Joël et Jean-Loup, mais on a Abdoulaye qui nous appelle de Seine-Saint-Denis, qui est responsable justement. Qualité, sécurité, environnement, c'est ça, Abdoulaye, bonjour.
C'est ça, bonjour tout le monde.
Dans le secteur du bâtiment, on peut venir bosser comme on veut alors ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, pas du tout. Déjà, je voulais juste dire, je kiffe toujours autant Joël.
Ah, oh, merci.
Premièrement, il y a...
Il a le droit de me kiffer ?
Il faut juste rappeler que le risque zéro n'existe pas.
Hein. Voilà.
Dans n'importe quel métier.
Surtout le bâtiment.
Ouais, surtout le bâtiment, que tous les métiers ne présentent pas les mêmes niveaux de risque. On ne peut pas comparer un poste de bureau climatisé à un travail sur chantier, exposé à la chaleur, au bruit ou à d'autres contraintes physiques.
Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui travaillent dehors avec de fortes chaleurs ? Bon, ils ne partent pas de short, mais alors dans ce cas-là, il faut adapter les horaires alors.
Ouais, il faut adapter les horaires, mais aussi uniformiser. Moi, j'ai le cas sur mon chantier, j'ai des compagnons qui travaillent sur le terrain. C'est-à-dire, ils sont en train de mettre la dalle, ils sont avec des marteaux-piqueurs, ils sont avec des marteaux, ils sont en train de travailler. Et il y a d'autres qui sont en toiture. Eux, ils sont directement en contact du soleil. Donc, eux, ils n'ont pas d'engin, ils n'ont pas de risque de chute d'objets, de risque de heurts. Eux peuvent se balader en short et sans casque, travailler.
D'accord.
On les voit sous la toiture. Mais ceux qui sont sous le sol, ce n'est pas possible. Le seul sujet qu'il y a, c'est quand les règles de travail, c'est que quand tu es dans le bâtiment, tout le monde doit porter les EPI, c'est-à-dire manches longues, pantalons, gants.
Bien sûr. Même s'il fait chaud, même si on dépasse les 30 degrés, 35 degrés.
Exactement. Et maintenant, c'est à nous, en interne, de fixer certaines règles. C'est-à-dire, on va faire tout le nécessaire pour que les compagnons prennent des pauses le plus régulièrement possible, mettre un point d'eau à côté, se reposer ou bien améliorer les horaires pour qu'ils rentrent chez eux, quoi.
D'accord, ok. Voilà, au moins c'est clair, il y a des règles qui sont fixées et vous êtes là pour les contrôler. Abdoulaye, merci. Abdoulaye, pour fidèle des GG, depuis quand vous écoutez, vous regardez depuis quand, Abdoulaye ?
Écoutez, je vais être honnête avec vous, j'écoute les GG depuis que je suis à la fac. Je suis arrivé en France en 2007.
C'est pas vrai.
Ouais, en 2007, ouais. Et en fait, j'étais en train de faire le ménage. C'était Jean-Jacques Bourdin qui passait. Et vous êtes passé juste après. Et j'ai dit, tiens, je connaissais pas l'émission. Et tous les jours, je regarde. Et je vous explique les GG. Quand je vais aux États-Unis en vacances, la première chose que je fais, quand je me réveille, à cause du décalage horaire, je mets RMC et je bois mon café.
Abdoulaye, ah, bah écoutez, ça. Votre fidélité, on va la récompenser avec un t-shirt des GG et le livre des grandes gueules aussi, Abdoulaye.
Merci beaucoup, les GG.
Mais c'est moi qui vous remercie de votre fidélité.
Et aussi, il y a les GG en Guinée, apparemment.
Il y a les GG en Guinée.
Les
grandes gueules de Guinée.
T'as raison, ouais. On avait reçu un message un jour de Guinée. Je ne sais pas trop si on les avait pas eu en direct.
Il s'appelle Lamine Guirassy, le patron des GG.
Oui, il y a les GG en Guinée, il y a les GG aussi au Canada.
Ouais, exactement.
Les grandes gueules au Canada.
Abdoulaye, je vous envoie le livre et le t-shirt des GG. Merci Abdoulaye, qui kiffe Joël Dagosséry. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les vêtements ?
Non, mais je suis un peu surpris parce que moi, déjà, j'avais une théorie sur la ville de Niort. C'est qu'à mon avis, cette ville est une ville fictive qui n'existe pas en vrai et qui a été inventée par les présentateurs météo. Donc là, typiquement, il fera 32 à Niort. D'ailleurs, les éboueurs pourront se mettre en short. Donc pour moi, Niort est une ville dans laquelle personne n'est jamais allé, qui est totalement fictive.
Moi, j'ai eu plein de fois.
Et avec tout le respect que je dois à nos amis
New-Yorkais.
Si, ils existent.
On imagine bien.
On imagine.
Tu sais que la peau de chamois vient de Niort.
On est une grande gueule près de Niort.
C'est quand même extrêmement suspect. C'est que leur prétendu club de foot s'appellerait, d'après nos amis, les chamois, alors que quand tu regardes sur une carte, c'est la région la plus plate de France, et que le chamois est quand même un animal de montagne. Donc, excuse-moi, mais le caractère fictif de la ville de Niort me paraît assez avéré. Bon, plus sérieusement, je salue nos amis niortais, parce qu'en fait, je suis quand même déjà allé une fois à Niort, ville d'assurance et de mutuelle, par hasard. Donc, j'ai pu voir que apparemment ça existerait pour de vrai. Et donc, mais elle est quand même souvent citée dans la météo, cette ville. Hein. Et faut voir est-ce qu'il existe un risque objectif pour la sécurité des éboueurs ou pas. S'il en existe un, il faut malheureusement leur refuser le short. Mais s'il n'en existe pas, là, il faut, pour les périodes de canicule, autoriser le short. Et ça fait d'ailleurs un peu partie du management de l'équipe, de ne pas se laisser étouffer par une norme rigide. D'autant plus qu'avec les évolutions climatiques en cours, on va être de plus en plus confronté à ce genre de problème. Donc soit il y a un vrai risque objectif de sécurité, dans ce cas-là, il faut dire non. Et par exemple, aménager les horaires et prendre des mesures compensatoires. Voilà. Soit il n'y a pas de risque dans la sécurité, et là dire « Ok les gars, vous pouvez venir en short s'il n'y a pas de risque ». Voilà, je voudrais connaître un peu mieux techniquement le dossier.
Moi, je connais un peu le pays et je suis sûre qu'on se protège, même s'il n'y a pas de risque objectif, ou en tout cas pas beaucoup tel qu'il explique, puisqu'ils ont dit que les canons étaient faits de telle sorte qu'il n'y ait plus de projection sur le bas du corps. Je suis sûre qu'on réfléchit encore. Hein. Ah, il ne faut surtout pas. On se
le principe de précaution.
Voilà, exactement. Ah, on prend des précautions et il vaut mieux les laisser crever de chaud qu'on ait le moindre petit caillou qui atterrit sur le genou d'un.
Oui, mais ça peut se retourner aussi contre la boîte.
Oui,
mais
moi, je suis pour quelque chose un peu hybride, c'est-à-dire qu'on puisse rendre responsable la personne qui souhaite porter des shorts, qu'il signe une sorte de décharge ou qu'il ait une assurance privée dans ces cas-là, etc., qui prennent le relais, mais qu'on responsabilise les gens face à leurs souhaits, en fait. Et je ne suis pas pour que papa et maman de l'entreprise te disent non, tu ne dois pas porter un short ou tu dois porter tel t-shirt, etc. Surtout, ce qu'ils expliquent en plus, et qui m'a un peu fait tiquer, c'est qu'ils expliquent que les camions ne sont pas climatisés. Et je ne m'explique pas la détestation qu'a la France pour la climatisation. Vraiment. Hier, par exemple, j'étais dans une boutique, les vendeuses couraient partout, il faisait au moins 40 degrés dans la boutique. Je me dis, mais comment on peut faire travailler des gens toute la journée dans ces conditions-là, c'est pas humain. Je suis désolée. Donc, il y a un moment, climatiser déjà les camions et peut-être voyez si, effectivement, on n'a plus besoin du short. Mais tu vois, t'as l'employeur qui est là, qui te met dans un camion, il fait 45 degrés. Tu portes des bennes sous 33 degrés, sous 35 degrés, et on te dit, il faut attendre le plan de canicule. Mais attends.
Et après,
quand ils vont dire qu'ils ne veulent pas aller à la retraite à 64 ans, on va leur dire, ferme ta
gueule. Mais d'ailleurs, est-ce que la robe de Joël serait adaptée?
Elle est climatisée.
Cette robe qui ne protège pas les jambes.
C'est un problème.
Voilà, serait adaptée.
Elle fait passer le vent. J'ai laissé une ouverture.
Non, mais on salue tous les éboueurs parce que c'est un métier fondamental.
Ah oui,
c'est un métier extrêmement important, et même pour des raisons de santé publique.
Y compris à Niort.
Voilà, y compris à Niort. Donc on salue tous les éboueurs qui nous écoutent. Et c'est un métier très difficile et vraiment très dur physiquement, souvent mal considéré à tort, alors qu'en fait ils font un travail formidable.
En fait, on les salue. Tu as deux points aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un problème de matière. La matière, parce que la matière des trucs de sécurité.
Oui. Ouais, c'est ça.
Voilà. Et puis, tu as un sujet aussi, c'est qu'avant, les tournées se faisaient la nuit. Et comme les patrons ne veulent plus payer les tournées de nuit, les mecs sont la journée.
Et oui, pour payer moins.
Ah,
oui.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on va faire une fête. Ce sont les 6 mois de François Bayrou.
Alors, le double de Barnier, ma canne.
Mais oui, les 6 mois de François Bayrou, ça se fête dans les GG avec vous au 32-16. Ensuite, on reparlera de la consommation de drogue et d'alcool au travail qui explose. À tout de suite avec les GG.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules. RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Bonjour, c'est Anaïs Castagna.
RMC, Anaïs Matin.
Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour Anaïs Matin de 6h à 9h sur RMC. On va se réveiller ensemble dans la bonne humeur, c'est ma promesse, avec toute ma bande, toute la bande d'Anaïs Matin, Peggy Broche, Thibaut Jean-Grande, Rémi Jacob, les correspondants d'RMC en région et vous, évidemment, au 32-16. De l'info toutes les demi-heures et des invités qui font l'actualité. À tout à l'heure, dès 6h sur RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Débat avec les GG, avec les grandes gueules, avec Bruno Poncet, avec Joël Dagosséry, avec Jean-Loup Bonamy, bien évidemment. Et avec vous au 32-16 depuis 9h ce matin. Et si vous avez raté les grandes gueules, vous avez les podcasts à votre disposition sur l'appli RMC et sur notre site internet rmc.fr avec les petits off, bien sûr, des GG, des grandes gueules. Jean-Loup, Joël, Bruno, je vous propose maintenant de fêter l'anniversaire des 6 mois de Monsieur François Bayrou à Matignon. Mais on le fête avec vous au 32-16, bien sûr. À l'hôtel de Matignon, rue de Varennes, pour François Bayrou. 6 mois que la France est dirigée par M. Bayrou. Alors, est-ce qu'on fait le bilan ? 6 mois, c'est bien. Il a tenu le pays à un cap ou c'est déjà trop ? Venez en parler au 32-16.
Et oui, c'était le 13 décembre 2024, après la chute du gouvernement Barnier. Emmanuel Macron nommait François Bayrou. Quoique, l'a-t-il vraiment nommé ou est-ce que c'est François Bayrou qui s'est nommé à Matignon ? Vous vous souvenez dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait ? En fait, Emmanuel Macron avait consulté François Bayrou, puis au dernier moment, il lui a dit bah, finalement, ça ne sera pas toi, mais plutôt Sébastien Lecornu. Et là, François Bayrou aurait menacé de sortir de la majorité, même s'il n'y a pas de majorité, de la coalition gouvernementale avec ses députés Modem. Et Emmanuel Macron, donc, s'est fait tordre le bras et nomme François Bayrou, qui depuis 6 mois est donc en place. Et il s'est passé beaucoup de choses en 6 mois. Je regardais l'actualité. Il y a eu le passage du cyclone Chido qui avait ravagé Mayotte et François Bayrou avait été sur place. Il a réussi à faire quand même passer un budget sans tomber. Il y a eu la crise avec Alger qui n'est pas toujours terminée puisque notre écrivain est toujours emprisonné. Il y a le conclave sur les retraites, ça doit bientôt se terminer. Il y a aussi les accusations d'agression sexuelle dans l'établissement catholique Notre-Dame de Bétarame et on accuse François Bayrou d'avoir fermé les yeux. Il a d'ailleurs été auditionné dans une commission d'enquête. Donc il s'est passé beaucoup de choses et en même temps on a quand même un peu l'impression qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de majorité, on repousse un peu les efforts à faire. Alors on attend le mois de juillet pour connaître le plan de redressement des comptes publics et tout est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on repousse à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, mais peut-être parce qu'il n'a pas le choix, François Bayrou.
Qu'en dites-vous, Joël ?
Écoute, j'ai une sorte de ressenti. J'avais l'impression que j'avais 45 ans quand il est arrivé au pouvoir et j'ai l'impression d'en avoir 185 à l'heure actuelle. Je pense que c'est en année de chien. Je sais pas, il y a un truc. qui se fait, mais le temps est long, long, long. Il se passe tellement de choses et il se passe rien du côté politique. Alors sûrement oui, on n'a pas de, il y a pas de majorité, etc., qui se dégage. Mais je considère aujourd'hui que nous n'avons pas de premier ministre. Voilà, c'est ce que je me dis. Nous n'avons pas de premier, nous avons des ministres. Je vois du Darmanin, je vois du Retailleau. Voilà, enfin on a des ministres qui, mais je considère que nous n'avons pas de premier ministre parce que je ne vois pas en fait l'apport significatif, la valeur ajoutée de François Bayrou. Et je crois que quand on occupe un tel poste, on doit avoir une valeur ajoutée. Et j'attends que, peut-être que vous allez m'en donner une, hein, mais je n'arrive pas à voir quelle est sa valeur ajoutée. Il y a des gens, par exemple, ils ont pas de compétences techniques, mais ils ont une sorte de personnalité, tu vois. Lui, il n'y a même pas ça. Donc, je suis désolée, le temps est long et j'attends avec impatience une prochaine dissolution. Voilà, je suis obligée de le dire.
Ou la chute du gouvernement.
Ou la chute, ou une censure, voilà.
Bruno Poncet.
Ben, Olivier, quand il expliquait un peu ce qui s'est passé depuis 6 mois, en fait, quand tu parles de ce qui s'est passé à Mayotte, Bayrou, il préfère aller au conseil municipal de Pau que d'y aller. Ensuite, il sait rien. Et là-bas, ils n'ont pas résolu le problème. Quand tu parles de Bétaram, ben, il est embourbé et ça ne va pas s'arranger parce qu'en fait, à chaque fois, ça craque et on sait qu'il a menti même devant les députés. En fait, Bayrou, il n'a rien fait depuis 6 mois. Et en fin de compte, il voulait ce poste-là comme si c'était son bâton de maréchal avant de partir en retraite. Mais en fait, il sert à rien, il fait rien. Et puis, malheureusement...
Est-ce que quelqu'un à sa place serait mieux, surtout?
Ben non, parce qu'en fait, tous les ministres autour de lui, et on les a vus brasser de l'air tous, là, les Retailleau, les Darmanin, mais en fait, ils n'ont rien fait. Et depuis le dernier qu'on voit en date, qui passe partout, là, qui a une tête lombarde, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il nous explique qu'il faut
le ministre de l'économie.
Oui, celui qui a 21 millions d'euros
de patrimoine.
De patrimoine, qui fait une collection de pianos à queue, mais qui derrière t'explique, il t'explique quand même qu'il faut que tu fasses des restrictions. Ça me fait délirer, en fait. Mais en fait, aujourd'hui, on se retrouve qu'avec un gouvernement qui est amorphe depuis 6 mois, parce qu'en fait, tout le monde attend la fin de Macron. Tout le monde attend la fin de Macron. Tout le monde dit, dans 2 ans, et ça va être long, 2 ans. Hein. 2 ans à attendre et avoir quelqu'un comme ça qui est inerte. Mais effectivement, sa durée de vie va s'arrêter au prochain budget. Parce que tout le monde sait que le prochain budget, ça sera de la merde, qu'en fait, il va encore faire des restrictions toujours chez les mêmes et que les gens vont le faire sauter. Et que le RN aujourd'hui n'a pas bougé une oreille parce qu'ils ont déjà assez de problèmes avec la condamnation de leur patronne. Je pense que le truc de Bayrou, il va être vraiment temps que ça s'arrête.
Monsieur Jean-Loup Bonamy.
Non, mais c'est d'une certaine façon la force de Bayrou, c'est-à-dire ne rien faire. Et c'est pour ça qu'il tient.
Il est le meilleur.
Il est le meilleur dans ce style. Alors, c'est pas un compliment, hein. Mais c'est pour ça qu'il tient. Et à mon avis, ça ne pouvait être que comme ça. Non seulement, comme Olivier l'a dit, à cause du contexte global, mais même en raison de la personnalité de Bayrou. C'est-à-dire, il a toujours été comme ça. Et il a toujours, et là, c'était son plan depuis le début. C'est sa façon de faire, c'est son style. Et donc, dans ce contexte-là, ça marche, en fait.
Ministère de l'Éducation nationale.
Ah oui.
C'est un record sur la 5e République.
Ah oui, il n'avait rien fait. Et c'est ça grande force. Et t'as vu là le conclave sur les retraites, en fait.
C'est génial ça.
Il y a rien, quoi.
Non.
Y a rien. Donc voilà, c'est vraiment, oui, remettre à plus tard, délayer, aussi une forme de et en même temps. Voilà, on donne des gages aux uns et aux autres.
On voit plus en ce moment. Ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu vraiment, tu vois, mine de rien.
Là, il est monté un peu au créneau aussi après le drame de Nogent. Oui. Il a fait un plateau.
Mais par contre, je pense que
qu'il fallait interdire les couteaux. Voilà. Extraordinaire. Enfin,
je pense qu'il a des ambitions présidentielles. Et qu'il n'y a pas renoncé.
C'est pas le dernier poste avant la retraite. Hein.
Dans son esprit, il ne le vit pas comme le dernier poste avant la retraite.
J'ai des ambitions présidentielles aussi. J'aurais été le PDG SNCF, mais je pense que je ne vais jamais y arriver. Bayrou, c'est pareil. Si Bayrou demain.
Alors moi, je serais mieux que Jean Castex.
Si demain il est élu président de la République, moi je suis capable de courir un poil sur
Oui, mais
dire,
sauf hein. que.
Ah, attendez, on a pris notre.
Si Bayrou est élu président de la République, Bruno.
Je cours un poil sur Jean-Élysée.
D'accord.
Ok. Gardez les images. Gardez les
archives. On a pris date.
Là, je pense
François,
pas les Français,
on compte sur toi.
Je pense pas les Français assez cons pour élire quelqu'un comme ça, en toute franchise.
Ça motive.
Excuse-moi, tu vas le faire gagner là. Mais il a quand même un problème. Son problème s'appelle Bétaram. Ça, c'est vrai que s'il n'y avait pas Bétaram.
C'est fini, Bétaram.
Mais ça peut ressortir. Ça, non. C'est pas une affaire. C'est pas une bonne affaire. C'est pas une good vibe.
Trop mal sorti, il faut reconnaître.
Ouais, mais c'est pas forcément.
Devant la commission d'enquête, il est quand même. Et c'est plutôt bien débrouillé, moi j'ai trouvé.
Non mais c'est son genre, oui, Louvois, mais
c'est une façon de faire.
Joël a raison, il y a des urgences aujourd'hui dans le pays, donc il faut les régler ces urgences.
Il y a des urgences, mais apparemment, mais ils n'ont pas les moyens de les régler. Enfin, quand je dis les moyens, c'est le courage, de les régler. Et ça me fait penser, je crois que c'était un livre qui parlait de médiocratie. Je t'assure qu'on est vraiment dans ce type d'environnement. Tu as des médiocres en fait, qui arrive à tirer des postes. Et c'est comme ça partout, partout. En fait, on est entouré, je vois dans la classe politique, de gens qui sont médiocres et qui sont bons, justement, bah, à ne rien faire, oui. Mais forcément qui sont médiocres.
Mais lui est très bon dans ce style.
Oui, bah oui.
C'est le roi du ne rien faire. Oui, mais encore une fois, pardon, je vais prendre un peu la défense de François Bayrou. Ah bon ? Qui ferait mieux à sa place ? Dans ce contexte impossible qu'il n'a pas créé, je rappelle, on est dans cette situation parce que Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée il y a quelques mois, mais et qu'aujourd'hui on est aussi dans une période pré-présidentielle et donc il y a des candidats qui se préparent et qui ont d'ailleurs intérêt à que rien ne bouge pour pouvoir se présenter devant les Français en disant avec moi tout va changer, vous verrez. C'est même une stratégie.
Non mais
plus à la limite. Bayrou les arrange parce qu'ils pourront dire
oui.
Voyez,
ah bah Bayrou arrange. Passé,
c'est pas en deux ans avec moi
oui,
le
faut
changement.
Pas dans
le
gouvernement. Bon. Faut pas être dans le gouvernement à côté de Bayrou pour dire ça.
Bah Retailleau pour l'instant ça l'aide quand même à avoir une notoriété à exister.
Oui,
mais peut-être
lumière.
Qu'un jour Retailleau partira.
Mais Darmanin pareil.
Mais, ou Darmanin.
Oui, mais tu peux
mais,
faire.
Donc qui à la place ferait mieux? Pardon, Lucie
non,
Castet.
Mais... Non.
Oui,
non, mais...
bien sûr, elle ferait mieux. Oui, tu peux faire pire que Bayrou.
Non, mais tu peux avoir une énergie, tu sais, même Barnier, j'étais pas d'accord avec sa politique, son augmentation des impôts à tout va, mais quand même, il y avait une volonté. Tu sentais que, voilà, il est venu, bah oui, il s'est dit, bon, il faut faire quelque chose. Lui, excuse-moi, Bayrou, tu sens une volonté de faire quelque chose?
Moi, je pense que c'est justement.
Oui, c'est pas ça qu'il va tirer.
Il serait
oui.
censuré. Oui, parce que ça serait un concurrent direct pour les autres.
Oui.
Aujourd'hui,
oui.
finalement, il ne gêne pas Marine Le Pen, il ne gêne pas Retailleau, il gêne personne.
Bah oui,
il ne gêne pas Édouard Philippe. Édouard Philippe, à côté, déroulait son programme en disant, moi, quand je vais arriver, tout va changer, je vais régler tous les problèmes. D'ailleurs, Édouard Philippe a dit, de toute façon, c'est deux ans pour rien. Voilà, donc, une espèce de complicité.
Désolé, je vais faire l'enfant, mais et nous? Enfin, je veux dire, voilà. Ils sont entre eux, ils nous gênent pas, machin. Non, on va pas le censurer tout de suite, tu comprends.
Ah oui, bah,
mais et nous, je veux dire, on crève. Quand je dis on crève, c'est pas littéral. Enfin, c'est au sens figuré. Mais je veux dire, on n'en peut plus. Déjà, moi, j'en peux plus de juste devoir donner la compétence. J'en peux plus de voir les impôts, j'en peux plus de voir la sécurité, enfin, on n'en peut plus de partout.
Là oui, mais il n'y a aucun sens de l'intérêt général chez les politiques français.
Voilà, bah, c'est ça.
Mais ils n'ont aucune préoccupation du bien commun. Ça, c'est évident. La classe politique française est nulle intellectuellement, elle est inculte, elle n'a aucun courage, elle est déconnectée de la réalité et surtout, elle n'a aucune préoccupation du bien commun. Et ça, excusez-moi de le dire, c'est quand même mieux dans d'autres pays. Voilà.
La Chine ?
De quoi ? Non, mais dans plein d'autres pays, il n'y a pas besoin d'aller
la
prendre
Chine,
nos amis chinois.
Russie,
mais il y a plein d'autres pays.
L'Iran.
Mais la classe politique française est dans un état lamentable.
Ça, c'est vrai.
C'est sûr. On est d'accord avec toi, Jean-Loup.
C'est Brice qui va en parler avec nous. Brice Dieu, fidèle DGG, qui est serveur itinérant et qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour, Brice.
Bonjour, les GG.
Qu'est-ce que tu en dis, alors, de Bayrou 6 mois à Matignon, alors ?
Bah, c'est un peu déjà de trop, mais comme vous disiez, est-ce qu'on a vraiment eu le choix ? On a là, c'est un des premiers ministres qui doit être les plus insipides et les plus soporifiques avec Jean-Marc Ayrault de la Ve République.
Ah oui,
son bilan, c'est rien depuis 40 ans de vie politique. Ce sera rien pour les dernières années qui restent. C'est le roi de la formule inventée comme le conclave. Alors qu'on savait tout le monde savait clairement qu'il n'y avait rien qu'en sortirait. C'était juste de l'enfumage pour endormir tout le monde. Bayrou, voilà, c'est que ça en fait. C'est le roi de l'enfumage. Il n'a jamais rien proposé. Il n'a jamais rien fait. Donc, bah, comme Joël disait, en fait, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre une chose, c'est la fin du macronisme qui se tire avec lui. Et de toute façon, il fera rien, il sautera au prochain budget,
ouais,
et il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience, en fait.
Ouais, mais c'est terrible, Brice. C'est que ouais. Souviens-toi, dans son discours de politique générale, même quand il avait pris la parole,
je me suis endormi.
Ouais, mais alors peut-être que tu as eu le temps avant de t'assoupir d'entendre le mot Himalaya de difficulté.
Ouais,
donc c'est tout le paradoxe.
Les enfants, c'est pas comme les courgettes aussi, par exemple. Enfin.
Oui, ça pousse pas.
Et il fait un peu des raffarinades.
Ouais, il a pas. Oui, mais voilà. Si tu veux, c'est tout le paradoxe de quelqu'un qui dit qu'on a un pays qui est face à une montagne, un Himalaya de difficulté.
Soit pas sérieux.
Il a son plan qui va être
démoli.
Pour le moment. Oui, qui pour le moment ne fait rien.
Non, mais moi je pense que le grand moment de vérité.
Oui, c'est.
Ça va être la publication de son. Plan, là, dans 2-3 semaines, il va dire précisément.
Mais voilà, il est au commissaire au plan aussi, qu'est-ce qu'il nous a fait avec ça ? Rien du tout.
Mais oui, mais
là, il va être obligé de sortir du bois. Non, mais là, il va être obligé de sortir du bois s'il veut ses 40 milliards d'euros d'économie.
Il va être obligé d'agir. Ouais.
Mais par contre, Brice, toi qui bouge un peu et puis qui travaille dans des bars le restant, en fait, moi, je vois, j'ai pas mal de potes, et je pense à mes potes tatoueurs, ça fait un bout de temps que les gens ne viennent plus vers ça parce qu'il y a une vraie inquiétude de l'avenir. Parce que on n'arrête pas de parler d'augmentation d'impôts et tout, et aujourd'hui, on a quand même une récession. d'activités dans le loisir, dans les sorties, parce que avec Bérou puis Barnier, en fait, on a tellement peur de l'avenir et que l'avenir ne vient pas. En plus, ça fait 6 mois, 1 an que ça dure. Et moi, je vois plein de gens autour de moi qui me disent qu'ils vivent moins bien qu'avant, en fait, dans leur métier, dans ça les métiers comme ça, restaurant et tout ça.
Restauration, c'est pareil aussi. On voit la différence. Hein.
Ouais, ça m'étonne pas parce que tu vois, ça c'est un truc que j'entends partout dans tous les métiers. Oui, un peu de loisir, de sortie. Et c'est dingue en fait que.
Alors que la loisir, politique c'est le budget prioritaire. Enfin, c'est le premier budget dans un foyer. Donc.
Ouais, c'est clair. Hein.
Ouais. Moi, alors, je veux pas, Brice. Il y a quelque chose qui, je veux pas vous faire peur. Ah. Mais vous dites, il faut, et vous avez raison, attendre la fin du macronisme. Le problème, c'est que si le successeur d'Emmanuel Macron, c'est Édouard Philippe ou Gabriel Attal, qui ont tous les deux été des proches collaborateurs et des premiers ministres du macronisme, c'est reparti exactement pareil pour 5 ans. C'est-à-dire que Édouard Philippe élu, vous prenez 5 ou 10 ans exactement sur la continuité de la même chose et du même système. Idem pour Gabriel Attal. Vous partez vraiment sur tous les sujets. Finances publiques, impôts, économie, désindustrialisation, insécurité, vous en reprenez, crise des services publics, vous reprenez exactement la continuité du même pour 5 ans, voire 10 s'il est réélu.
Merci Brice d'avoir été avec nous.
Et ça fait peur.
À bientôt dans les GG, Brice. On va maintenant jouer. C'est vendredi 13. Allez Anaïs, s'il te plaît,
il y a le tableau
viens
du
avec
jeu.
Nous. On a le tableau avec les tickets à gratter et c'est Esther qui a été tirée au sort. Bonjour Esther.
Bonjour.
Bienvenue ma chère Esther.
Bonjour,
vous
Esther.
Avez été tirée au sort.
Bonjour à toutes les grandes gueules.
Alors ma chère Esther, il y a jusqu'à 13 000 euros à gagner. Jusqu'à 13 000 euros.
Oui.
Alors on a des tickets.
Entre 1 et 13 Esther.
Entre 1 et 13,
le
8 sachant
et le
que
13
les tickets
ont déjà été pris.
Voilà, 8 et 13 ont été pris. Lequel choisissez-vous?
Et sous l'un de ces tickets, il y a 13 000 euros.
Le 8 et le 13 a été pris.
Ouais. Oui, il y a un original qui a choisi le 13.
Alors, allez-y.
Ah bah, c'est le jour. Eh bien, moi, je vais choisir le 4.
Ah, allez, le 4. Allez. Pourquoi le 4?
Très parce beau que chiffre. Je suis né le 4 septembre.
Alors, ah bah voilà, ça attention, on gratte. L'honneur.
Très beau chiffre.
Et vous gagnez...
Allez, 13 000.
130 euros.
Oh, comment c'est gentil.
C'est toujours ça de prix,
ça.
130
ça
fallait, euros.
Ça fallait course.
C'est toujours ça que François Bérou n'aura pas.
Exactement.
Une paire de baskets. Hein.
Ma chère Esther, 130 euros. Et vous écoutez les grandes gueules depuis longtemps?
J'ai vécu un certain temps en Espagne. Et quand je suis rentrée en France, j'ai découvert surtout Apolline de Malherbe pour Monsieur Bourdin.
Et les GG.
Et les GG après, dépendant des sujets.
Eh bien,
il y a des sujets qui sont vraiment choquants, quoi.
Et ma chère Esther, quand même, puisque vous suivez les GG, je vais vous envoyer le livre Les Grandes Gueules, 20 ans de succès. On va vous offrir le livre et toute l'équipe, tous les GG vont vous le signer. Et continuez à jouer.
Sauf
parce que
Bruno, il fera une croix parce qu'il ne sait pas.
Continuez à jouer, ce n'est pas fini. Vous pouvez encore envoyer chance par SMS au 732-16, tirage au sort et choix du ticket toute la journée sur RMC. Prochain grattage tout à l'heure à 14h40 avec Estelle Denis dans Estelle Midi. Vous envoyez chance, vous avez 5 minutes. Il est 11h18, 5 minutes pour gagner chance par SMS au 732-16.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC.
Ils sont sportifs.
Ils se voient le week-end.
Ils forment une grosse équipe.
Ils ne pratiquent pas la langue de bois.
Ils aiment le rugby,
le foot,
le judo,
l'escrime,
le cyclisme,
le handball,
la voile,
le karaté,
le skateboard,
la pétanque,
le ski,
le biathlon,
le triathlon,
le pentathlon,
le décathlon.
Et surtout, le sport.
Ce sont les grandes gueules du sport, bien sûr.
Tous les samedis et dimanches, 9h midi sur RMC.
Trop pressé aujourd'hui?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC et RMC Story avec Joël Dagosséry, avec Jean-Loup Bonamy, avec Bruno Poncet. Si vous habitez près d'une prison, c'est le moment de témoigner parce que les prisons en ville, visiblement, c'est l'exaspération pour les riverains.
En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. La bamboche, c'est terminé. La bamboche, c'est terminé.
Discothèque,
on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. La bamboche, c'est terminé.
Alors,
la bamboche, c'est terminé.
pour les riverains qui sont à côté des prisons ou des maisons d'arrêt qui sont encore installées en centre-ville, ça devient invivable. Alors tout est parti de témoignages du côté d'Agen, et c'est nos confrères de la Dépêche du Midi qui ont relayé, et aujourd'hui ce sont nos confrères du Parisien qui font un grand dossier là-dessus.
C'est la une d'aujourd'hui en France, les nuits infernales des riverains de prison. Cris, musique, voire feu d'artifice pour l'anniversaire des détenus, comme ici à Agen. Et donc en fait, ils viennent devant la prison et ils font la fête pour celui qui est à l'intérieur. Et comme ces prisons sont en plein centre-ville, eh bien forcément, c'est l'enfer pour les riverains, notamment à Agen. Les habitants se plaignent de la maison d'arrêt qui est surpeuplée et située en plein centre-ville. 3 ou 4 fois par semaine en soirée, on entend des cris ou des gens qui tapent sur les barreaux. Plus, effectivement, c'est quand même dingue, des gens qui viennent faire la fête juste devant la prison. Alors, on se demande que fait la police à ce moment-là. Et à l'intérieur, pourquoi n'arrive-t-on pas à faire régner une certaine discipline à l'intérieur de ces prisons? C'est quand même la question qu'on se pose. Et puis, finalement, ces prisons, il faut peut-être arrêter de les construire dans les villes. Il y a des champs. Alors, bien sûr, ça pose des problèmes parce qu'ensuite, il faut pouvoir faire venir le personnel, ceux qui viennent visiter les prisons. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les prisons en centre-ville sont persona non grata.
Question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire régner la discipline? Peut-être parce qu'il y a un taux d'occupation de 130%. Oui. Réponse. Ouais. Voilà, merci.
Merci.
Mais là, c'est à l'extérieur que ça se passe.
Oui, non, mais on n'arrive pas à faire régner à l'intérieur parce que le truc. Non. Oui, mais le truc est sur le point d'imploser.
Faire la fête avec des feux d'artifice à l'extérieur, ça n'a rien à voir avec la surpopulation.
Oui, mais déjà, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le faire tenir à l'intérieur? Parce que là aussi, c'est l'une des cocottes minutes de la société française, qui a des taux d'occupation à 130, 140, 150%. Et donc, c'est compliqué d'y faire régner l'ordre. Et que les matons achètent la paix sociale aussi. Exactement. Avec une certaine forme de tolérance. Parce que de toute façon, le truc est aussi sur le point d'exploser.
Ça quand même donne une drôle d'image, parce que la prison est censée quand même être un lieu fermé, un peu dur.
Et surtout qu'on arrive.
Et là, ça devient un lieu de fête, quoi.
C'est une pénurie de places de prison, comme une catastrophe à l'hôpital ou dans l'éducation nationale, avec les impôts les plus élevés du monde et 3 000 milliards de dettes.
Mais tu vois,
donc,
par exemple,
où va l'argent?
La maison d'arrêt de Nice, elle est
où précisément?
Elle est en plein centre-ville. Elle est en ville, la maison d'arrêt de Nice. Elle a un taux d'occupation de 200%.
Voilà.
Ouf, bah oui.
200%, si tu veux.
Bah, tu
libérais du foncier, sauf que le projet de construction d'une autre prison n'a jamais abouti pour faire sortir la maison d'arrêt de Nice, tu vois, d'intramuros. Et pour les riverains, bah, les cris, etc., ça existe aussi. Donc si vous êtes à côté d'une prison, venez témoigner au 32-16, Joël.
Non, mais Jean-Louis a complètement raison. Je pense que quand tu sais que t'es pas net, tu laisses passer plein de choses, parce que tu sais déjà que toi, voilà. T'es déjà en dehors de la loi. Enfin, voilà, c'est pas net. Et donc, effectivement, si vous êtes à 130% ou à 200%, c'est déjà une poudrière à l'intérieur. Hein. Vous êtes peut-être 3 par cellule, j'en sais rien, ou 4 par cellule. C'est déjà, je veux dire, je crois pas que ce soit la fête. Et je n'achète pas ce, comment on appelle ça, ce discours qui dit qu'en prison c'est la fête, machin,
en dehors
des
prisons ça l'est quand même. C'est
ah bah devant la prison, oui, là c'est ah, oui, là c'est gênant, mais là c'est aux autorités et à la police faire régner la tranquillité, mais en même temps je dis que tout ça on laisse faire à l'intérieur et un peu à l'extérieur. Parce que on sait très bien que on n'est pas net sur le nombre de prisonniers à prisonniers à avoir dans l'enceinte de la prison, tout simplement. Donc il y a plein de lâchetés qui sont faites parce que on sait qu'on n'est pas carré, tout simplement.
Donc on laisse faire.
Et qu'il faudrait construire des places et que ça peut aller très vite. Ouais, ça peut aller très vite.
C'est... Bruno.
Regarde les JO.
Ben pourquoi on en a construit seulement 5000 sur les 15000 prévus par Emmanuel Macron?
Mais pour plusieurs raisons.
Il dit qu'il y en aura 10000 à la fin de son quinquennat.
Déjà, parce que ça commence à le devenir avec les questions d'insécurité. Mais en fait, que c'est pas une promesse très populaire. Donc, pour des hommes politiques qui, encore une fois, ne se préoccupent pas du bien commun, mais sont dans la com et dans la démagogie, voilà, le ministre qui veut faire construire des places, il se dit, bah, quand la prison, elle sera construite, je ne serai peut-être plus ministre. Donc, en fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a le court-termisme et la démagogie et le culte de la com des dirigeants. En effet, il y a un manque d'argent parce qu'on préfère payer les retraites géantes des boomers plutôt que de mettre de l'argent là. Donc, il y a toute une série de raisons, parce qu'il y a trop de normes du bâtiment, parce que
première raison, c'est que les maires en veulent pas, mec, parce qu'ils veulent pas. Mais t'as pas un maire qui veut une prison.
C'est ça, et c'est pour ça qu'il faut être un peu plus autoritaire, là, et que les maires, on leur demande pas leur avis.
Non, mais pardon, vos problèmes, je comprends. Alors, votre argument, c'est surpopulation, il faut laisser faire. Oui. Enfin,
non, on dit pas faut laisser faire, mais on
laisse faire. Ça va pas donner envie aux maires d'installer des prisons.
Chef, toi, t'habiterais à côté d'une prison?
Bah pourquoi pas.
Moi je veux dire, ça fait des années que ça existe. Moi j'avais un copain qui était.
Je vois très bien où elle est à Besançon. J'habite pas super loin. Alors pas au point d'être dérangé. Mes parents habitent à 800 mètres et je me vois bien habiter dans la rue en face.
J'ai les fêtes. Moi j'ai un pote qui me disait qu'à Villeneuve-les-Maguelones, les mecs qui venaient avec leur voiture, ils se garaient, ils mettaient la musique à fond pour que les autres ils entendent à l'intérieur de la prison en fait. Et à l'époque il y avait.
C'est là on a qu'à construire les prisons à la campagne, dans les champs.
Il faut faire déjà faire un peu régner l'ordre aussi autour des prisons.
Déjà fait très bien. Les pauvres matons en sous-jour ils sont devenus cibles. T'as bien vu, dernièrement ils se sont fait canarder. Darmanin il a fait quoi? En fait tu vois ça, on en revient toujours sur les torts sur Bérou et toutes ces cliques là depuis 8 ans. En fait ces gens ils te font des effets d'annonce, ils te font du tricotage à longueur de journée, mais en fait ils font rien. Aujourd'hui l'état de la justice en France, mais surtout en plus là juste sur le focus sur les prisons, c'est insupportable en fait. Là à chaque fois on te sort un truc, ouais, les mecs on leur fait faire un Koh-Lanta en prison, je ne sais quoi. Mais ça c'est une fois un endroit, évidemment que c'est un peu choquant pour celui qui voit ça à l'extérieur. Mais le problème il est plutôt que t'as des mecs qui dorment à 8 dans une prison.
Non mais ce que raconte notamment cet excellent dossier dans le Parisien, c'est que ce qui est le plus bruyant, c'est souvent le détenu qui guide celui qui est à l'extérieur, qui est en fait celui qui va lui lancer un téléphone, qui va lui lancer des choses. Mmh. Donc il crie, alors on dit vas-y, lance là. Il y a aussi les drones qu'on envoie. Enfin, je veux dire, c'est devenu, excusez-moi, mais c'est le grand bazar. On ne peut pas à la fois prôner un discours un peu ferme de répression et puis laisser ça.
Moi, je pense qu'il y a le discours ferme, mais je crois que la police doit arbitrer. En fait, je suis sûre qu'entre plusieurs délits, entre plusieurs appels de majeur,
ils doivent
arbitrer parce que il y a un manque de moyens, il y a une augmentation peut-être aussi des signalements de ci et de ça, et ils arbitrent et ils se disent peut-être que celui qui met un peu la musique dans la voiture pour son copain qui c'est pas très grave, parce que là on vient de m'appeler sur ça, machin,
et puis
j'ai de la paperasse à faire, etc.
Mais ça donne un sentiment d'impunité aussi, ça veut dire que finalement on peut le faire parce qu'on ne risque rien.
Et simplement, je remarque que Notre-Dame a pu être
foncier qui dégringole aussi, hein, pour voilà. Ceux qui sont propriétaires de ces appartements aussi.
Que Notre-Dame a pu être reconstruite en peu de temps parce qu'on a levé toutes les normes, tous les blocages qui entravent l'action.
Voilà. Merci au privé.
Et donc, que pour les prisons, si on levait aussi toutes les normes qui ralentissent et qui entravent la construction, on pourrait construire.
Oui, mais si tu construis des prisons, tu auras toujours cette misère. Une réponse.
Comme on l'a dit tout à l'heure, moi je suis un mec un peu autoritaire, donc s'il y a des gens qui en veulent pas, tant pis.
Non, d'accord, très bien, mais tu construis tes prisons, mais qu'est-ce que tu fais contre ceux qui vient balancer un portable, envoyer un drone, etc.
Le jour où on aura des prisons où le taux d'occupation ne dépassera pas les 100% et où tous les prisonniers, les détenus seront en cellule individuelle, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, ça sera déjà plus facile de gérer les choses.
Mathieu,
il faut déjà commencer par
Mathieu
là.
Est surveillant pénitentiaire, il va en parler avec nous. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Mathieu, vous, de quel côté êtes-vous, vous surveillant?
Dans le centre de la France.
D'accord, dans le centre. Avec une prison intramuros?
Une prison en centre-ville.
En centre-ville.
Alors,
et comment ça se passe au centre de la France et au centre-ville, avec le soir surtout, alors dites-moi.
Comme partout, j'ai envie de dire. Hein. Alors, il y a différents niveaux. Il y a les soirs de match de foot où ça va crier à chaque but. Il y a après, comme dans toutes les prisons de France, où quand on est sujet à des projections de l'extérieur, ça fait du bruit, mine de rien.
Oui.
Et voilà quoi.
Mais il y a du monde dans les rues autour de la prison le soir qui mettent de la musique, qui tirent des feux d'artifice, effectivement. Ou c'est du.
Ça arrive en cas d'anniversaire, cas de fêtes religieuses, ou même de fin d'année, Noël.
Mais dans ces cas-là, la police intervient à l'extérieur de l'établissement.
Le problème qu'on a, c'est que c'est un peu comme pour tout le monde. Hein. On a beau les appeler, ils ont des missions à l'extérieur. Eux aussi sont sous-effectifs. Ouais. Et puis généralement, c'est éphémère, j'ai envie de dire. Enfin, ça dure 10 secondes et puis après, les gens s'en vont. Quoi.
Mais autour de la prison, les gens se plaignent, les riverains ou pas?
Alors, ça arrive. Après, ça, c'est plus au niveau de la direction. Nous, on n'y a pas forcément écho, quoi. Mais ça peut arriver. Oui.
Et je dis aussi une chose, c'est qu'en prison, il y a une bonne part des détenus qui ne sont pas de nationalité française et qui sont étrangers.
20 000 à priori.
Voilà, exactement. Et que peut-être aussi, si on les expulsait, ça libérerait de la place dans les prisons.
Ouais, mais pour ça, il faut des laissez-passer consulaires. Je sais que pour le commissaire...
C'est pas le seul problème, il y a aussi un manque de volonté politique.
L'ami Bonami, peu importe le laissez-passer consulaire.
Non, mais il y a un manque de volonté, il y a un manque de retour à Stockholm. Donc, il y a un manque de volonté politique, mais c'est sûr que si on rétablissait la double peine, parce que là, t'as des gars qui sont étrangers, qui ne sont pas de nationalité française, ils commettent un délit, ils vont en prison, ils restent en France après, ils recommettent un délit, retournent en prison. Si après leur première peine, ils étaient expulsés, principe de la double peine qui avait été appliquée jusqu'en 2003, s'ils étaient expulsés dès leur sortie de prison, ils n'y retourneraient pas et ça libérerait de la place.
Mathieu, merci d'avoir été avec
nous. Voilà une idée.
Je veux dire un dernier mot, du coup,
je vous en prie.
Sans vraiment, parce que j'ai toujours le droit de réserve, mais il y a 20 000 détenus, certes, sauf qu'en France, on n'a même pas 60 000 places de prison.
Ouais.
Et que 20 000 sur 85 000 personnes détenues, mine de rien, il y aura toujours de la surpopulation.
Oui, mais il y en aura moins déjà, ça libère déjà une partie.
Et la surpopulation, le problème, c'est que par exemple, on va parler des nuisances la nuit. La nuit, il faut savoir que les surveillants n'ont pas forcément les clés, donc nous, on ne peut rien faire.
Oui, bien sûr.
Donc,
Mathieu,
pourquoi vous n'avez pas les clés?
Parce que c'est comme ça dans les prisons. Oui.
Mais s'il y a un mec qui fait un malaise, un prisonnier, un détenu qui fait un malaise grave, il se passe quoi?
Ça, après, il y a toute une procédure, mais les surveillants n'ont pas les clés.
Mais on voit aussi que vous êtes victime, c'est ce qu'on disait sur les normes de construction, vous-même, en tant que surveillant, vous êtes victime de la dictature des procédures. Et il y en a un peu marre de l'excès de procédures en France.
Mathieu, un salut à tous.